démarche qui me paraît pour le moins intéressante et qui vaut le coup qu'on s'attarde un peu sur lui. Alors, simplement, par rapport à ce que tu as fait, j'aimerais que tu nous démarres un petit peu, si tu veux, au début. Hein, commençons par le commencement. Et le commencement, c'est ta jeunesse. J'avais aimé tes récits de jeunesse. Parle-nous un peu de ça, de ton départ, si tu veux.
Mais oui, je pense que c'est ça qui est important, parce que chaque acte est sous-tendu par une motivation. Et la question, c'est comment se fait-il que certains vont régulièrement en forêt et d'autres s'arrête à une affiche ou le souvenir de l'existence d'une forêt. Donc déjà ça. Pourquoi certains s'entourent d'animaux et d'autres pas? D'une façon heureuse. Et donc là, il y a un phénomène qu'on appelle l'imprégnation et que moi j'ai eu la chance de découvrir pendant mon adolescence. Donc, ce que je ne savais pas, c'était que nous étions pas nombreux à être entourés, à être bien entourés d'humains, bien entourés de forêts, bien entourés de rivières pleines de vie, bien entourés d'une ferme extraordinaire, qui était extraordinaire parce que il y avait 1000 animaux. Et puis, c'était notre garde-manger de la famille et des gens qui venaient travailler avec nous. Donc, j'étais imprégné, voilà. J'étais imprégné de tout ça. Pas une fois, tous les jours, pendant toute mon enfance, pendant toute mon adolescence, et au début de ma vie, jusqu'au moment où je me suis marié à 24 ans. Voilà. Donc, toute cette partie-là, un quart de siècle, pratiquement imprégné de vie sociale intense. Donc échange, carrefour, voilà, donc une certaine approche des gens. Donc je me passionne pour les gens, mais pas seulement pour les gens, je me passionne pour la forêt. J'ai eu des relations avec la forêt, les arbres de la forêt, absolument, de cette forêt, de mon enfance, absolument extraordinaire. Donc j'essaye de développer des connaissances qu'un autre n'imagine même pas.
Alors là, pour le moment, on est à l'est de Célestat, tout près de Célestat, au Moulin de la Chapelle. Hein. Et ton enfance dont on nous parle là, c'était où géographiquement parlant? Donc on est en Centre-Alsace là, aujourd'hui, maintenant.
Ben, on est au Centre-Alsace et dans la partie la plus basse
Oui.
de cette plaine, qu'on appelle le Ride, c'est-à-dire dans la partie marécageuse, dans la partie où passe l'eau.
Oui.
Et sur 10 000 hectares passe l'eau. Et la forêt donc de Célestat, dans laquelle je vis, où il y a mon moulin maintenant, mais aussi le moulin de mes parents,
Moulin-Stoll,
voilà,
oui.
qui s'appelle Moulin du Docteur,
Oui.
lieu dit, hein, c'est
Oui.
Moulin du Docteur à l'orée est de la forêt de Lille, et c'est absolument extraordinaire. Donc ces deux moulins se situent dans et au bord de la forêt de Lilleval, qui appartient à Célestat. Et cette forêt de Lillewald est au cœur de la zone inondable. Voilà, donc un moulin n'est jamais inondable, mais il y a de l'eau partout autour. Donc moi j'ai toujours connu, j'ai aussi connu et reconnu depuis mon enfance le respect de l'eau, l'importance de l'eau pour le moulin, mais aussi plus que l'importance pour... Pour les prés, la forêt, ça en parlait moins, mais c'était quand même. Quand tu vas en classe et puis tu prends les bottes, et pour aller ton chemin jusqu'à la route, il y a 500 mètres à faire dans 20 cm d'eau courante, où tu ne peux pas aller au bord, il faudrait bien rester. Donc on connaît les inondations, mais sans en avoir une peur, comme dans certaines régions qui n'ont pas connu les inondations, et d'un coup, il y a l'eau qui vient. On a toujours connu. Mais donc, ce respect de l'eau est venu tout petit aussi. Voilà. et je dirais presque maintenant, eh bien, s'il n'y avait pas cette zone inondable, si les inondations ne feraient pas couler des millions de mètres cubes à travers la forêt, à travers les prés, je pense que le RID naturel tel qu'on a connu, eh bien, n'existerait plus.
L'agriculture intensive, quoi.
Voilà, l'agriculture intensive, mais aussi la sylviculture intensive.
Oui, bien sûr, oui, oui. Pour ce qui est des forestiers.
Tout ce qui est culture intensive, agri et sylvie.
Alors, au sujet de ton enfance, moi, il y avait quand même une petite histoire qui m'avait amusé et que j'aimerais que tu me recites pour l'anecdote. Je crois que tu avais une façon de te faire un peu d'argent de poche en tant qu'étudiant. J'aimerais que tu me racontes ça.
Oui, bon, alors, c'est un secret pour personne. Je n'aimais pas tellement l'école à cause des horaires. C'est pas tellement le collège, le côté social de l'école, c'était fantastique, mais les horaires. Donc, j'avais l'habitude, pour dire, à 12, 13, 14 et 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, je vais à l'école je faisais d'abord mes livraisons, c'est-à-dire au mois de mars maintenant, entre le 10 et le 20 mars, je livrais, en 58, j'ai livré 1000 douzaines de grenouilles. Voilà. Alors donc, mais je n'étais pas le seul. Oui. Donc cette livraison prenait un peu de temps. Donc là, le fait d'aller à Célestat était justifié. Donc j'allais en classe, je dirais, j'allais pas d'abord en classe, je faisais après mes livraisons. Je faisais d'abord mes livraisons et j'allais après en classe. Voilà. Mmh. Et quand c'était la truite, tout le fin mars, avril, mai, c'était les truites et il y en avait par milliards. Tout le monde en mangeait. Donc ceux qui n'avaient pas le temps d'en pêcher, ils en achetaient à Jean-Pierre ou à Ina Georges ou à d'autres. Voilà. Donc je livrais, après les grenouilles, c'était les truites. Et tout le printemps jusqu'au début de l'été, c'était, alors là, fin du printemps, c'était les anguilles, voilà. Et j'avais aussi un élevage de pigeons dont les parents me laissaient vendre les jeunes pigeons, quoi. Mmh. Voilà, donc j'étais toujours un peu en commerce. Et j'allais d'abord à Célestin Mélo avec les sacoches pleines de marchandises pour mon argent de poche, mais c'était... du bel argent de poche, hein. Voilà, c'était très régulier, c'était fantastique, quoi. Mm-hmm. Et alors, pour un adolescent, c'était extraordinaire. Si bien que moi, on ne savait pas si j'allais vraiment à Célestat pour aller à l'école ou d'abord pour faire mes livraisons d'animaux sauvages, de cueillettes. Voilà.
Mm-hmm. Et alors, ce que tu as aussi connu, c'est ces fameux chevaux et ces débardeurs, hein, avant l'ère du tracteur, avant l'ère avérée du tracteur. En tout
cas. Mais ça, cette période est très très claire, c'était dans les années 50. Jusqu'en 58, il y avait à Célestat 27 familles de charretiers qui ne faisaient que débarder le bois et transporter le bois avec des pigrelas. Donc pigrelas, c'était un petit cheval qu'on a retrouvé après à l'Est, dans les pays de l'Est, mais en France, sud-ouest de la France, dans le Pays Basque, quoi. Mmh. On appelle là-bas le potoka, mais ça signifie aussi petit cheval. Donc, voilà, c'était des chevaux de 300-350 kilos. Vers la fin, les Célestadiens ont accepté la pression des haras pour les mélanger à quelques Bretons ou Comtois. C'est un petit cheval de trait, mais quand même, ils ont quand même terminé sur des 600 kilos, 500 kilos, 600 kilos. Voilà. Alors, ces chevaux ont totalement disparu entre 58 et 63. Ça, c'était très vite, très rapide, impressionnant. Et bon, moi, j'étais adolescent et ça m'a beaucoup impressionné, quoi. Mmh, mmh. Et donc, on peut dire que c'est pas seulement les chevaux qui ont disparu. Tout plein de choses ont disparu dans et après ces périodes, et très 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 vite. Mmh. Notamment la faune, la flore, et notamment les espaces de marais étaient aussi longtemps qu'il y avait des attelages aux chevaux, et l'exploitation se faisait avec les chevaux, eh bien, c'était pas démesuré. Il y avait des prélèvements réguliers, mais on pouvait pas exagérer, hein. On ne pouvait pas bien exagérer. Mmh. Notamment dans le marais, il y a eu des années, au mois de juin, il y avait de l'eau dans les prés. Donc on ne pouvait pas faucher, il fallait attendre 3 semaines de plus. Mmh. Il y a des moments où, au mois de juin, les chevaux se sont enfoncés. Et on pouvait pas, il fallait encore une fois attendre. Hein? Donc, le marais était bien protégé par l'eau, et avec les animaux, on n'avait pas des moyens extraordinaires pour tuer le marais. Hein?